Ce matin, le titre que j'ai mentionné, le titre qui est écrit à l'écran, « Le combat du chrétien entre l'esprit du monde et l'esprit qui vient de Dieu », on a passé rapidement la dernière fois que j'avais pris la parole, ou c'est moi qui avais pris la parole, on avait passé rapidement le chapitre 2. Et on a compris à quelque part qu'il y avait des choses importantes à ressortir de ce chapitre-là. Et c'est pour ça qu'on revient un peu sur le chapitre 2. Et nous allons lire au chapitre 2 de 1 Corinthiens à partir du verset 12, s'il vous plaît. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Chapitre 3. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et un autre d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Nous, dans l'église de Corinthe, les gens subissaient de l'influence de leur époque. Et Paul leur fait comprendre qu'ils avaient beaucoup plus que cet esprit du monde qui rôdait autour d'eux et que la puissance de Dieu pour tous ceux qui sont appelés dans 1:24, ou que Paul prêche, et par la sagesse que Paul prêche dans 2 au verset 6, Paul prêche aux Corinthiens, mais il nous prêche à nous aussi. C'est la même position que nous avons aujourd'hui. Cette position-là de l'Esprit de Dieu, qui vient de Dieu, n'a rien à voir avec l'Esprit de ce monde, que nous n'avons pas reçu, mais qui nous influence quand même. L'Esprit du monde nous influence. À la création de l'homme, Dieu a mis en l'homme un esprit qui permettait cette relation créature-créateur. À la chute, cet esprit n'a pas disparu, il n'est pas parti de l'homme, mais il est devenu profane, il est devenu mondain, et on a tous vécu sous sa seule direction jusqu'à notre salut. Nous avons tous vécu à un moment donné dans notre vie sous l'esprit du monde. En 2020, cet esprit du monde ne peut toujours pas comprendre l'esprit qui vient de Dieu. Malgré qu'il y a des personnes qui ont des belles notions bibliques, qui ont certaines notions bibliques, et qui peuvent même les citer, ils peuvent citer des versets, peut-être pour provoquer ou même se moquer. J'ai déjà vu ça. Je pourrais vous en conter, on pourrait rire ce matin sur des choses qui sont dites parfois. D'autres qui vont utiliser la parole pour établir certains principes dans leur vie. Et ça peut être même étonnant, surprenant, qu'est-ce qu'ils connaissent. Parfois, des gens qui connaissent certaines notions de la Bible, qui les appliquent dans leur vie, c'est surprenant. Mais ils n'ont pas l'esprit qui vient de Dieu et qui vient habiter en nous. Dans Matthieu 4, Satan qui tente de surprendre Jésus à la sortie de son jeûne, il utilise la parole. Pourtant, on sait bien où est-ce que Satan va aller. Ou dans Matthieu 7, un peu plus loin, Christ prophétise et il parle de gens qui ont prophétisé en son nom, qui ont chassé des démons en son nom, qui ont accompli des miracles en son nom. Ils ont sûrement utilisé la parole de Dieu. Mais pourtant, quelle est la parole que Christ leur dit? « Je ne vous ai jamais connu. » Vous êtes qui, vous autres? Je ne vous connais pas. Même si vous avez fait un paquet de choses. Donc, l'esprit qui vient de Dieu est important. C'est la chose à avoir. Notre société actuelle réfléchit avec l'esprit mondain, car c'est le seul esprit qu'ils ont. C'est le seul esprit qui les dirige. Même si leur intuition morale peut avoir faire du sens au point de vue humain, ils sont loin de la pensée de Christ. En réponse au bien ou au mal, est-ce que c'est nuisible? Ça ne fait pas mal? Si ça ne fait pas mal, donc c'est bien. Dans la pensée du monde. Mais si ça fait mal, non, c'est pas bien. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, mon épouse et moi, on a conseillé une jeune fille qu'il était dangereux de tomber en amour avec un garçon. Voyons donc, c'est dangereux de tomber en amour. Oui, c'est dangereux dans ta situation. Je lui faisais mal. Je l'ai fait pleurer. Quel tortionnaire que j'étais, que nous étions. Mon épouse aussi était là. Je leur faisais mal, mais c'était pour leur bien. Mais la pensée du monde ne pense pas comme ça. Si ça fait pas mal, c'est bien. Si ça fait mal, par contre, c'est pas bon. Sur le mariage, la sexualité est devenue beaucoup plus une récréation qu'une procréation. C'est devenu un droit fondamental. Il faut défendre, absolument, il faut protéger la relation sexuelle. Le sexe est devenu un bien fondamental, un plaisir sans conséquence, sans aucune contrainte. Mettre une contrainte, c'est devenu malsain. Le mariage, ce n'est plus un engagement formel, ce n'est plus une alliance devant Dieu. Le mariage est tout autre ça, c'est tout autre chose que ça. Pourtant, si je décidais de ne pas permettre un mariage car ils n'ont pas compris l'alliance devant Dieu, je serais le pire des malheureux. Voyons donc, tu ne peux pas interdire le mariage. Tu dois marier, il suffit juste que tu fasses la demande pour les bonnes, pour les mauvaises raisons. On en connaît des gens qui, pour avoir une meilleure bourse d'études, se marient. Ils ne savent pas où ils s'en vont. C'est ce que le monde dit à quelque part. Ça devient cruel de permettre de dire non, je ne vous marie pas pour cette raison-là. Ou la vision de l'être humain, un héros est fidèle à soi. Un héros, c'est la plus grande vertu, c'est l'expression de soi. Tu dois te découvrir par toi-même, tu dois quelque part, et ça fait un peu de sens, hein? Mais pourtant, la parole de Dieu dit à quelque part que l'on doit mourir à soi-même. Il y a toutes sortes de choses. La semaine passée, j'enseignais à grand-mère, un frère, qui se lève au pas du Seigneur, il parle de Jean chapitre 10, qui parle d'une brebis. Et j'ai dit, vous rendez-vous compte que si vous allez dans le monde et que vous dites que vous êtes une brebis, ils vont dire, un mouton, t'es un mouton, toi. La signification du mot dans le monde n'est pas la même chose que dans l'Église. Le monde ne voit pas la même chose que nous. Je suis fier, je suis content d'être une brebis du Seigneur. Et pour le monde, je suis un mouton, un suiveux, mais moins que rien. Même si l'esprit du monde est présent parmi nous, partout, sur différentes manières, à travers différents médias, on peut avoir un esprit critique. Parce que nous avons l'Esprit qui vient de Dieu. Et la manière que Paul s'exprime est importante. Il ne dit pas que c'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas seulement que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui vient de Dieu. Et c'est important de comprendre la différence. C'est Dieu qui a sorti son Esprit et qui l'a mis en nous. On ne l'avait pas avant, mais nous l'avons eu. Nous l'avons maintenant. Mais comment ça se fait? Comment qu'on peut faire ça? Comment est-ce que Dieu prend son Esprit et il le met en nous? Il pourrait le faire à 6 milliards de personnes. Il est capable de le faire. Pourquoi qu'il ne le fait pas à tout le monde? Pour ça, il y a une condition à laquelle on ne peut échapper. Si tu crois que l'œuvre de Christ à la croix est suffisamment puissante pour que tu puisses aller devant Dieu et te repentir de tes fautes, tes erreurs, tes péchés, si tu es capable de faire ça, Dieu décide de pardonner tes péchés. Dieu décide de les oublier. Et dans la poésie de Dieu, dans le livre de Michée, il dit qu'il va les jeter, il jette tes péchés au fond de la mer. Et on sait bien que le fond de la mer, c'est un endroit où l'homme n'a pas pu découvrir qu'est-ce qu'il y a dans le fond de la mer. Bien, il y a tous les péchés, t'es pardonné. Tout est là. Et c'est là que Dieu prend son esprit, et il la sort, et il nous la donne, il nous la fait habiter en nous. Il suffit de le demander. Et nous, on appelle ça le salut. On appelle ça être sauvé. On appelle ça changer de vie. Et la chose est certaine, c'est certain, parce que ça vient de Dieu, premièrement. C'est certain, et nous pouvons avoir l'assurance de ce salut. Parce que ça ne vient pas de nous, mais ça vient de Dieu qui nous l'a donné. Cette action de l'Esprit qui vient de Dieu, qui est en nous, a une raison. Et le verset 12, nous dit « Afin que nous connaissions des choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Le terme « connaître » ici, « afin que nous connaissions », c'est un processus, un développement, une recherche des choses données. Dieu nous donne une bâtisse comme ça, mais nous connaissons juste la tuile qu'il y a là. Pour connaître toute la bâtisse, nous avons une éternité. Et nous avons besoin de l'éternité pour connaître tout ce que Dieu nous a donné. La capacité de connaître vient de Dieu. Mais notre responsabilité est de rechercher les choses données. À chaque privilège, et c'est un privilège, que je n'ai pas encore compris pourquoi que Dieu est venu dans ma vie. Je n'ai pas encore compris pourquoi que Christ est venu mourir pour moi. Mais je sais que c'est un privilège. Et à chaque privilège, il y a une responsabilité. Et c'est un principe de base. Vous ne pourrez pas vous en sauver. À chaque privilège, il y a une responsabilité. Et Dieu ne veut pas faire une exception dans cela. Notre responsabilité, c'est de rechercher, c'est de connaître de plus en plus les grâces que Dieu nous a données. J'aimerais vous montrer que Dieu, par sa grâce, place des perles de très grand prix à travers ses écrits. Dans 1 Corinthiens 1:30, on est dedans. Il est dit, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Pour expliquer cela, j'ai retenu cela de M. Godet, docteur en théologie. Je n'ai pas pu le découvrir par moi-même. Ben, pas par moi-même, mais j'ai été aidé par quelqu'un. On est tous aidés par quelqu'un, n'est-ce pas? Et c'est encore une grâce de Dieu. Christ a été fait sagesse pour nous. par notre relation avec Christ, il nous donne accès à la sagesse divine. L'intelligence au plan du plan divin. Par Christ, nous avons accès à toute la connaissance de sa volonté. Ce qui nous permet de reconnaître par la foi que Dieu nous déclare juste. Lorsque j'essaie de comprendre ça avec ma logique humaine, je ne comprends pas. Comment est-ce que je peux être juste? Je me rappelle des choses que j'ai pensées hier et ce matin, puis je me dis, comment est-ce que je peux être juste avec ce que je viens de penser, avec ce que je viens de dire, peut-être la colère que j'ai faite là? Comment est-ce que je peux être juste? Lorsque j'essaie d'établir une justice dans ma tête humaine, là, j'arrive à un mur. Dans ma tête, je ne peux pas être juste. Mais la sagesse divine m'emmène à accepter la justice de Dieu dans mon cœur. Je suis rendu juste aux yeux de Dieu. Je suis rendu juste au point qu'il a fait de nous des saints. Sa justice va assez loin pour nous donner la sainteté. Il ne nous a pas déclaré juste, il a fait de nous, c'est un fait. Il a fait de nous des saints. Et la sanctification qui est mentionnée dans le verset, ce n'est pas la sanctification progressive que l'on cherche tous à avoir. C'est un état. La sainteté ou la sanctification est un acte divin créé par Dieu qui s'attache à notre position de juste. Je suis juste au point que je suis saint. Si la justice de Dieu est une déclaration à notre égard, notre position de saint la rend effective pour la gloire de Dieu. Notre justice, c'est Christ pour nous. Notre sanctification ou notre sainteté, c'est Christ en nous. Il n'y a que par la sagesse divine que je peux comprendre ces dons de la grâce. Humainement parlant, il est impossible que je puisse comprendre cela. Et il y a aussi notre rédemption. La rédemption, c'est la délivrance complète et finale. C'est le développement de ce don, se dit dans Romains 8, 23. Nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Et plus loin, au verset 30, il va dire, « Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Cette délivrance, la rédemption, est l'entrée dans la gloire. Le couronnement de la justice et de la sainteté. C'est un événement glorieux réservé pour libérer les justifiés, les sanctifiés de toutes les misères que l'on puisse vivre aujourd'hui et leur donner une condition extérieure conforme à leur état spirituel. Oh, wow, attends une minute là. Une condition extérieure conforme à mon état spirituel. Un jour, mon corps sera transformé à l'image de ce que Dieu a fait dans mon âme. Ça va se ressembler. Aujourd'hui, mon corps et mon âme ne se ressemblent pas du tout. En tout cas, je ne voudrais pas qu'ils se ressemblent. Mais un jour, Dieu va transformer mon corps, il va m'emmener à être comme mon âme. Cette délivrance annoncé par Christ dans Luc 21-28, « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Et elle est enseignée dans les Épîtres par Paul, dans Éphésiens 1, 14. En lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. On chante un chant qui s'appelle « Rédempteur adorable ». Ça n'aura plus jamais la même signification pour moi lorsque je vais chanter ce chant. Rédempteur adorable. Et on faisait des farces avec mon épouse. On dit « Quand qu'on va être rédempté? » À cause de ces dons merveilleux, il est évident qu'aucune gloire nous appartient, ça ne vient pas de nous. Et que toutes les glorieuses connaissances que nous avons, que l'on peut avoir, donnent gloire à Christ et à Christ seul. Ce qui justifie le verset 31, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Toutes les connaissances que nous pouvons obtenir, toutes les grandes connaissances que nous pouvons obtenir ne servent qu'à la gloire de Christ. Et l'esprit du monde est complètement étranger à ça. Et au verset 16, et au verset plus loin, il va dire que l'homme spirituel juge de tout et sans être jugé par personne. Quand on lit ça comme ça et qu'on lit juste ce verset-là, hors de son contexte, ça semble être prétentieux. Je peux juger tout le monde sans être jamais jugé moi-même. Ça nous place dans un endroit assez élevé, hein? Mais ce qui explique cette position-là, c'est le verset 16. « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. » La pensée de Christ, en d'autres termes, l'intelligence de Christ. D'autres endroits dans l'Épître, ce même mot est traduit par intelligence. Nous avons l'intelligence de Dieu. Dieu nous a donné une partie de son intelligence. On ne serait pas capable de la contenir et de la garder. Et elle, cette intelligence-là, peut juger de tout et n'est jamais jugée par personne. Fidèle à Dieu, nous pouvons avoir un jugement qui est plus certain que l'esprit du monde. Accrochés à Dieu, nous pouvons avoir des actions qui ne seront pas jugées par personne. Malgré que les Corinthiens aient eu cette intelligence, Paul pose un jugement assez difficile au chapitre 3. Paul, après avoir comparé la pensée et la sagesse humaine à la puissance et à la sagesse divine, après avoir défini à quoi correspond l'esprit qui vient de Dieu, il dresse un constat assez troublant. Chers Corinthiens, vous êtes immatures. Vos actions sont charnelles. Il dresse un constat qui vous avez un comportement enfantin. Leur nourriture spirituelle était comparée à du lait, le seul aliment qu'un nourrisson peut vraiment ingérer. Et ça paraît, et le signe que l'on permet de voir ça, c'est ils font des divisions. C'est une église complètement divisée. C'est un peu comme, rappelez-vous, quand vous étiez enfant, des guerres de mots qu'on se faisait. Mon père est plus fort que le tien. Vous vous rappelez de ça? Ouais, c'est trop loin, je ne me rappelle plus. Non, je m'en rappelle très bien, parce que je l'ai entendu de mes enfants. Mon père est plus fort que le tien. Ici, il t'attrape, il va te battre. Les enseignements de Paul prêchent mieux que ceux d'Apollos. Puis Apollos prêche mieux que Céphas. Puis moi, j'écoute juste Apollos. Parce que Céphas, ça ne vaut rien ce qu'il dit. Je n'irai pas à telle assemblée quand telle personne va prêcher parce qu'il n'y a rien à me dire. Mais ces hommes-là, ces femmes-là, c'est les Corinthiens qui sont sanctifiés, saints par vocation, des gens qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ, comment est-ce qu'ils peuvent avoir un comportement qui ne respecte pas la vocation qu'ils occupent? On a vu quelle vocation que l'on avait. On a l'Esprit de Dieu en nous. On est chrétien par vocation. À d'autres endroits dans sa lettre, Paul fait mention d'œuvres de la chair. Parce que la division mentionnée au verset 3 ne vient pas seule. Les œuvres de la chair, ici, il en mentionne, mais à d'autres endroits dans l'Épître aux Corinthiens, d'autres œuvres de la chair sont mentionnées. Et on le voit dans Galates 5, 20, des œuvres de la chair, une liste assez exhaustive des œuvres de la chair. Et car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, l'animosité, disputes, divisions, sectes, envie, ivrognerie, acceptable et les choses semblables. J'ai souligné ceux qui étaient en lien directement avec ce que Paul mentionne. Et je n'ai oublié. Non, je n'ai pas oublié, excusez. J'ai la dissolution, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités. Tout ça, c'est en lien avec ce que les Corinthiens vivaient là. Les œuvres de la chair. Nous sommes notre propre empêchement à notre croissance. Paul avait ce désir d'aller plus loin. Lorsqu'il dit à quelque part, en effet, puisque le parmi vous des disputes, il va dire un instant. Il dit à un moment donné qu'il aurait aimé donner une nourriture solide. Verset 2, je vous ai donné l'idée, non de la nourriture solide. Il aurait aimé donner de la nourriture solide. Il aurait donné un bon steak. Il aurait donné quelque chose qui se tient. Il ne pouvait pas. Cette nourriture-là est faite pour des gens matures. Je ne sais pas si Guillaume est prêt à donner un morceau de steak à son bébé. Hein? D'abord, il n'a pas les dents pour le croquer. Puis probablement qu'il va s'étouffer avec. Ce n'est pas fait pour un enfant. La nourriture spirituelle a le même facteur. Un homme immature ne pourra prendre quelque chose de plus important. Il existe une immaturité normale pour un nouveau sauvé. Quelqu'un qui vient d'accepter le Seigneur n'a pas la connaissance de la parole. Et ça, c'est parfaitement normal. Mais ce n'est pas la situation de Paul ici. Il est en face de gens qui auraient dû atteindre une maturité, mais ils ont arrêté leur croissance. On arrête là. Mais comment ça se peut? Comment ça se fait, ça? On a vu que pour en arriver au salut, on n'a pas réellement besoin de beaucoup de connaissances. On n'a pas besoin d'en savoir beaucoup plus. C'est plus au niveau de l'abandon de notre vie à Christ. Et c'est pour cela qu'un jeune enfant peut donner sa vie à Christ. Il peut aller à Christ et lui confier sa vie. C'est pour ça aussi que quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans la jungle, qui n'a pas vraiment de grandes connaissances intellectuelles, peut être touché par la grâce de Dieu. Mais la croissance chrétienne demande aux Corinthiens de sortir de la pensée du monde. D'où la question de Paul au verset 3. Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. N'êtes-vous pas charnels? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Les gens de Corinthe utilisaient les mêmes moyens dans l'Église que ce qu'ils voyaient des philosophes et des sages de leur ville. Les écoles de pensée qui s'opposaient les uns aux autres et qui rejetaient les arguments des autres écoles. Les disciples de Platon, de Démosthène, d'Homère avaient des points de vue qui divisaient. Et malheureusement, les chrétiens de Corinthe avaient les mêmes manières de voir les serviteurs de Dieu. Les serviteurs qui se divisent. On serait porté à dire que, ouais, mais ça, c'est dans le temps de Paul. Aujourd'hui, c'est pas pareil, c'est plus la même chose. On vit plus ce que ces gens-là vivaient. Il n'y a pas tellement longtemps, je vais sur Facebook, je vais de moins en moins souvent parce que ça me tanne. Mais j'étais sur Facebook et j'ai reçu une invitation de faire un rassemblement pour contester pour la gloire de Dieu, de contester ce que le gouvernement fait pour la gloire de Dieu. J'ai essayé d'aller plus loin, mais c'est devenu encore plus difficile à écouter. Deux choses qui s'opposent. Contester le gouvernement et gloire de Dieu. Ça ne marchait plus, là. Il y a quelque chose qui ne marchait pas dans ma tête. Mais pourtant, c'était un chrétien qui disait ça. Ben, c'était quelqu'un qui se disait chrétien. Je n'ai pas sa preuve. Et la semaine passée, j'ai reçu un texto qui parlait d'une alliance entre le mouvement complotiste et la droite évangélique, annonçant une kermesse avec chorale et musique gospel et 6 pasteurs évangélistes aux côtés des gourous habituels du conspirationnisme en contestation des mesures gouvernementales. C'est terrible, c'est affreux. Je dis ça, j'ai des frissons. Ça se peut-tu? Quelle image que ça laisse! Parce que vous comprenez qu'ici, on est une église évangélique. Et eux aussi, qu'est-ce qu'ils font à comploter? Je ne comprends pas. C'est juste 2 exemples. Mais puis je ne veux pas en rajouter. Je pourrais, j'ai vu d'autres choses aussi. Mais une chose importante, le monde et sa manière de faire influencent le cœur des chrétiens. J'ai des témoignages navrants de personnes qui contestent. Et c'est le seul discours qu'ils ont, et même que ça en remplit leur cerveau. Et savez-vous quoi? Ces choses-là, ça provoque des divisions en 2020. J'aurais énormément de misère à m'associer avec cette droite évangélique. Je ne sais pas si la gauche évangélique est la même affaire. J'ai aucune idée de la direction, là. Mais j'aurais tendance à dire, reste dans ton coin, puis s'il vous plaît, ne fais pas trop de bruit. Hein. Mercredi passé, notre frère Stéphane a apporté un enseignement qui nous a éveillés sur cette pensée. Dans Luc 18, ceux qui étaient là, vous vous en rappelez, ceux qui n'étaient pas là, c'était sur le juge inique, qui ne craint pas Dieu, et la pauvre veuve qui va le voir pour obtenir justice. Et c'est une belle application. Le juge inique qui ne craint pas Dieu, qui ne craint pas les autres, qui est vraiment indépendant, est une belle image du monde. Le monde n'a pas beaucoup de crainte envers Dieu. Et la pauvre veuve qui va à ce juge pour qu'il fasse justice pourrait aussi être l'image d'un chrétien qui fonctionne avec les pensées du monde. J'essaye d'aller régler mon problème avec un juge qui est inique, un juge qui est faux. L'iniquité, c'est un péché, ça. C'est l'image d'un autre mot de péché. Mais je vais aller voir un juge pécheur pour essayer de me faire justice. Ça faites pas, là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Mais Jésus, il conclut au verset 7 et 8 de Luc 18. Vous lirez si vous n'avez pas en tête. Entendez ce que le juge inique dit. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Et cette dernière phrase-là qui est un coup de masse en plein front. Mais quand le Fils de Dieu viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Est-ce que le peuple ou les gens, la question est légitime, là. Mon problème que je vis, ma distanciation que je vis, est-ce que je vais mettre ça devant un juge unique ou si je vais suggérer ma foi est en Dieu? Dieu est ma solution. Jamais, jamais, jamais aucun gouvernement m'empêchera de mener ma vie chrétienne. Où est-ce qu'elle est rendue? Ma vie appartient à Dieu. Elle n'appartient pas à M. Legault. Elle n'appartient pas à M. Trudeau. Ou elle n'appartient pas aux complotistes de ce monde. Elle appartient à Dieu. Et Dieu est capable de faire que ma vie chrétienne va avancer. Il a cette grâce-là. Et c'est un don. C'est un don de sa grâce. Paul utilise l'esprit, c'est-à-dire, excusez, c'est l'esprit qui utilise Paul pour nous montrer les conséquences d'une vie qui prend ses repères dans le monde. Et dans les pensées qui s'éloignent de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous rappelle que la vérité va nous affranchir. Vous savez ce que c'est affranchir, hein? Ça veut dire libérer. La parole de Dieu va nous libérer. Et le seul endroit où nous pourrons connaître la vérité, ce n'est pas dans le monde. Et ce n'est pas dans ce que le monde va nous apporter, mais c'est dans la connaissance et l'application de la parole de Dieu, dans la relation que nous avons profondément avec Dieu. C'est le seul endroit où nous connaîtrons la vérité. Le temps s'écoule. J'aimerais apporter une conclusion à tout cela, mais j'aimerais surtout le faire comme une prière. J'aimerais qu'on prie, et c'est une prière que j'ai adaptée pour l'instant présent, c'est une prière de Paul, à l'Épître aux Colossiens. C'est une prière qui se fait ici, mais puis qui peut se faire n'importe quand à répétition. Prions. Je voudrais, Seigneur, prier pour nous. Et nous te demandons que tu nous remplisses de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Nous voulons porter des fruits de toutes sortes de bonnes œuvres. Nous voulons grandir, nous voulons croître par ta connaissance. Nous voulons te connaître. Permets, Seigneur, que tu viennes nous montrer la vérité. Permets, Seigneur, que tu viennes nous montrer le pas que j'ai à faire lorsque je vais sortir d'ici. Et ceci à tous les jours et sans arrêt jusqu'à ton retour. Merci, Seigneur.